Alors que s'ouvre une nouvelle saison de la Ligue nationale de hockey, c'est un grand plaisir pour nous de s'entretenir avec le directeur général de l'équipe qui est vu encore une fois comme la favorite parmi tous les clubs de la Ligue nationale pour remporter les grands honneurs, saison régulière et peut-être la Coupe Stanley, c'est certainement l'ambition. Donc, on peut parler d'une certaine pression, même s'ils s'en mettent probablement beaucoup eux-mêmes de l'intérieur du côté du Lightning de Tampa Bay. Julien Brisebois est avec nous au bout du fil. Salut Julien.
Salut Mario.
Comment ça va? Trouves-tu que j'en beurre trop épais dans l'intro un petit peu, parler de championnat puis de Coupe Stanley?
Un petit peu, parce que nous, on n'est pas, on n'a pas de titre à défendre vraiment. On est plutôt dans le mode prédateur. On est à la chasse d'un titre, plus que dans le mode défendre ce qu'on a accompli la saison dernière. La réalité, c'est que l'équipe de la saison dernière, c'est l'équipe de la saison dernière avec ses succès et ses échecs. Et puis cette année, bon, on forme une nouvelle équipe. On a des nouveaux joueurs. On a quelques joueurs qui sont joints à notre organisation, qui amènent une certaine fébrilité, sont excités de faire partie de notre équipe. On a un jeune joueur, Carter Verhaeghe, qui a été champion marqueur dans la Ligue américaine l'année dernière, qui va jouer ses premiers matchs dans la Ligue nationale. Alors lui, il amène une certaine fébrilité là, qui est souvent celle qui accompagne un jeune qui joue ses premiers matchs dans la Ligue nationale. Alors, puis même nos joueurs qui reviennent, ils reviennent des joueurs différents. Ils ont eu un long été pour s'entraîner. Ils reviennent dans l'espoir d'être meilleurs cette année. Alors, nous, dans notre tête, ce qui est arrivé l'année dernière, c'est l'année dernière. Ça, c'est l'équipe de l'année dernière. Puis là, en ce moment, ben, on forme une nouvelle équipe. On a hâte de voir l'histoire que cette équipe-là va pouvoir écrire cette année.
L'été a fait du bien à tout le monde. Les équipes qui ont veillé tard en série, les équipes qui ont pas veillé tard pour toutes sortes de raisons. On repense à ce qu'on a vécu l'année d'avant. Donc, tu sens vraiment là, au contact des joueurs qui faisaient partie du groupe l'an passé, donc la majorité de ton équipe, que ces gars-là reviennent très affamés.
Oui, je pense qu'à chaque année, les joueurs, je vais leur donner crédit, là, ils viennent affamés. Alors, je pense pas que ce soit nouveau. On sait qu'on va se faire poser des questions en cours de route sur notre élimination hâtive lors des séries éliminatoires le printemps dernier. Mais nous, à l'interne, on a tourné la page. On se doit de tourner la page. On a des choses à faire cette saison. On a des choses qu'on veut accomplir. Et ça commence par obtenir une victoire le jeudi soir contre nos rivaux, les Panthers de la Floride.
Serais-tu d'accord pour dire, Julien, que vous autres, dans le fond, là, moi, je regarde ça de l'extérieur, vous allez vous motiver, bien sûr, à avoir la meilleure saison régulière possible. Mais le vrai test sera les séries pour vous autres compte tenu du calibre de votre équipe?
Je pense qu'avant de penser aux séries éliminatoires, on doit se qualifier pour les séries éliminatoires. Je crois fermement là, que c'est probablement la saison où ça va être le plus difficile dans l'histoire de la Ligue nationale de se qualifier pour les séries. Il y a tellement de parité. Il y a eu un genre de réallocation du talent cet été qui est sans précédent. Plusieurs joueurs qui étaient sur des équipes qui s'étaient qualifiés pour les séries l'année dernière se retrouvent sur des équipes qui, elles, n'avaient pas participé aux séries éliminatoires. Il y a vraiment un rééquilibre, je pense, au niveau du talent à travers la Ligue. Il y a certainement au-dessus de 20 équipes là, qui sont aspirantes à la Coupe Stanley. Il y a facilement 25 équipes qui sont des bonnes équipes, probablement. Et ça veut dire qu'il y a un grand nombre de ces bonnes équipes-là qui ne feront pas les séries. Alors nous, si on veut faire partie de celles qui ont une chance d'avoir un long printemps, il faut d'abord se qualifier pour les séries. Ça nous prend un bon début de saison. Alors, toute notre attention est vraiment axée sur, en ce moment, notre premier match jeudi contre la Floride.
Hey Julien, c'est vraiment intéressant d'entendre ta dernière réponse. Premièrement, ça met les choses en perspective du point de vue d'une équipe très, très bien nantie. Puis je peux pas m'empêcher de penser en t'entendant que si les gens entendaient Marc Bergevin dire mot à mot les mêmes choses, ils voudraient pas l'entendre.
Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je pense fermement que cette année, ça va être la saison où ça va être le plus difficile de faire les séries éliminatoires, probablement dans l'histoire de la Ligue nationale. Et je dirais même probablement en ce qui a trait là, aux quatre ligues majeures en Amérique du Nord, là, que ce soit la NFL, le baseball majeur ou la NBA, il n'y a jamais eu autant de parité qu'il y en a dans la Ligue nationale de hockey cette saison.
C'est donc, ma foi, donc vous mettez la barre haute. En même temps, c'est peut-être une bonne stratégie de communicateur, Julien, pour vous enlever un petit peu de pression. Est-ce que je peux deviner ça aussi? Parce que tout le monde vous étiquette comme les favoris. Là, je te renvoie la balle un peu, là.
Ben, je crois fermement qu'on forme une très bonne équipe. On a de très bons joueurs, on est confiant en nos moyens, mais en même temps, on peut pas se permettre de souffrir de surconfiance. Et je crois fermement que cette année, là, ça va être une bataille féroce pour se qualifier en séries éliminatoires. On a déjà regardé là, les transactions qui ont eu lieu cet été. Plusieurs de ces transactions-là, le résultat des courses, c'est qu'un très bon joueur est parti d'une équipe qui avait fait des séries l'année dernière et qui là se retrouve dans une équipe qui, elle, au printemps dernier, n'a pas participé aux séries. Ces équipes-là se sont améliorées et je pense vraiment là, que ça a rééquilibré le terrain. Je cherche pas à minimiser le fait qu'on a une bonne équipe et que je sais qu'on s'attend à faire les séries éliminatoires, mais on peut pas faire l'erreur de prendre ça pour acquis.
Non, la parité existe, elle est bel et bien là dans la Ligue nationale, et même si je te pousse un peu dans tes retranchements, on est obligé de constater qu'effectivement c'est extrêmement compétitif et on ne peut rien tenir pour acquis. Permets-moi de te demander si toi, est-ce qu'il y a as-tu vu des drapeaux rouges dans ton camp d'entraînement? Je posais la même question à Marc Bergevin à Montréal hier. Est-ce qu'il y a des blessures inquiétantes, des retours au jeu, ou tu penses avoir ton équipe complète assez rapidement là?
Ben, pour le match de jeudi, là, on a Braden Point ne sera pas prêt. Ça, on le savait depuis le mois de mai. Braden a eu une double chirurgie aux hanches au mois de mai. Alors, on savait là, que son retour allait plutôt être son retour au jeu allait être plus en deuxième moitié du mois d'octobre. La bonne nouvelle, c'est qu'il semble être peut-être un petit peu au-devant de cet échéancier-là. Alors, même s'il ne sera pas là jeudi pour le match d'ouverture, ni en fin de semaine, son retour va être un petit peu plus rapide que prévu. En ce qui a trait au camp lui-même, on est chanceux. Pendant le camp, une des choses qu'on veut vraiment éviter, c'est les blessures. Cette année, malheureusement, Cédric Paquette a été blessé lors de la dernière semaine dans un des matchs préparatoires. Alors, lui va manquer le début de saison. C'est malheureux. Par contre, ça devrait pas être une blessure là, qui devrait le tenir à l'écart du jeu pendant trop longtemps, lui non plus. Alors, somme toute, l'énergie, elle est très positive. Comme je l'ai mentionné en début d'entrevue, on a quand même plusieurs nouveaux joueurs. Là, que je dirais pas loin de 25% de l'équipe sont des nouveaux joueurs cette année. Alors, ils amènent une énergie nouvelle. Les joueurs qui sont de retour sont un petit peu enthousiasmé par la présence de ces nouveaux joueurs-là. Et puis, je pense que c'est de bon augure là, pour notre début de saison.
Tu as senti le besoin de changer la situation devant une filet, j'imagine, dans le but de t'améliorer avec l'arrivée de Curtis McElhinney, qui a connu une saison fort intéressante avec les Hurricanes de la Caroline l'an passé. Comment tu peux nous expliquer cette décision-là d'aller chercher du renfort et de remplacer Louis Domingue, un Québécois qu'on connaît bien, qui, lui, semble pas avoir tout à fait compris là, la décision prise par toi et tes adjoint tes hommes de hockey. Donc, comment t'expliques ce changement-là donc devant le filet du Lightning, Julien?
Bien, premièrement, je ne cherchais pas à faire un changement au niveau de notre position de gardien de but auxiliaire. Louis a fait un travail phénoménal pour nous l'année dernière. L'année précédente aussi, il avait été excellent au niveau de la Ligue américaine, non seulement par son jeu sur la glace, mais son leadership dans le vestiaire. Louis, c'est un fier compétiteur qui prend à cœur les succès de l'équipe. C'est quelqu'un qui a une super bonne tête de hockey avec qui je sais, tant John Cooper que moi, on aime converser hockey avec lui parce qu'il a une perspective intéressante sur les choses, sur notre équipe, sur la ligue. Alors, c'était pas tant relié à vouloir avoir un autre gardien de but. Par contre, je regardais, lorsque l'opportunité de signer Curtis McElhinney s'est présentée vers la fin juin, autour du 1er juillet, je regardais notre alignement. On avait seulement un joueur de plus de 30 ans dans l'équipe. Alors, on était relativement jeune avec les départs là, de Callahan, Girardi, Strawman. J'avais l'opportunité de signer un gardien de but pour 2 ans à un salaire qui est probablement en dessous de sa valeur réelle. Les gardiens de but auxiliaires là, qui ont un profil comme Curtis, généralement, vont être plus autour de 2 millions. On avait la chance de le signer pour 2 ans à 1,3 million. Alors, cette année, on avait de l'espace sur le plafond salarial. C'était pas tant problématique, mais je sais que l'été prochain, on va avoir un très gros été avec des grosses décisions à faire et le plafond salarial va être un grand défi pour nous l'année prochaine de pouvoir le respecter. J'avais la chance d'ajouter un joueur là, qui est un vétéran, un soi-disant en passant bon vétéran là, qui est capable d'assurer une présence réconfortante dans l'alignement, un joueur un petit peu plus vieux qui vient d'avoir des bonnes séries éliminatoires et une bonne saison avec les Hurricanes. Je pensais aussi, compte tenu des performances de Louis et de la qualité de son jeu, que je serais capable de l'échanger, d'obtenir un choix quelconque là, en retour. Alors, dans ma tête, ça semblait être une décision assez facile où je rentrais un vétéran qui pouvait nous aider en termes de leadership. Je rentrais un très bon gardien de but que j'allais pouvoir garder pendant 2 ans et j'espérais du moins obtenir un choix repêchage pour Louis. Alors, les deux premières boîtes, ça s'est coché, ça s'est avéré vrai. Par contre, j'ai pas réussi à échanger Louis. Je me l'explique mal, autre que il y a 62 chaises pour les gardiens de but dans la Ligue nationale. Et puis depuis le 1er juillet, il y a juste eu. Ben là, aujourd'hui, Eric Cormier a été réclamé au ballottage. Donc, ça fait deux transactions impliquant des gardiens de but depuis le début de l'année, depuis le 1er juillet. Alors, je pense que c'était une simple question de conjoncture. Et c'est souvent le cas avec les gardiens de but. Au fil des années, tant à Montréal qu'à Tampa. Lorsqu'on essayait d'aller chercher les gardiens de but, des fois on a payé une prime, des fois on les a eu à rabais. Lorsqu'on voulait vendre un gardien de but ou échanger un gardien de but, des fois on a reçu une prime ou on a été obligé de vendre à rabais. C'est beaucoup une question de timing en ce qui a trait là, aux transactions impliquant les gardiens de but. Puis je pense que le timing n'a juste pas été bon pour Louis cet été.
Ouais, c'est vraiment très clair comme réponse. Je t'en remercie. Parlant de contrat de plafond salarial, le contrat de Braden Point, donc vous y êtes allé pour un contrat de transition, mais dans le fond, quand on regarde l'historique du Lightning de Tampa Bay, Steven Stamkos est passé par là également. Ça semble la coutume. Kucherov également, là, c'est pas la coutume pour vous d'allouer un contrat de 8 ans aussitôt qu'un gars a complété ses 3 premières années professionnelles. Est-ce que ce principe-là est de plus en plus difficile à faire accepter aux jeunes de la nouvelle génération, dont Braden Point, qui l'a accepté en signant ce contrat de 3 ans-là?
Je peux pas dire qu'on a eu de problème à date. On a eu diverses conversations avec Braden et son agent tout au cours de l'été. Ils ont toujours été ouverts à la possibilité de faire un contrat plus court. Nous, on était ouverts à discuter un contrat plus long. Ultimement, de part et d'autre, on a jugé qu'un contrat de 3 ans, c'est probablement la durée optimale. Et dans les derniers jours, là, avant qu'on en vienne à une entente, on était vraiment concentré sur un contrat de 3 ans, tant du côté de Braden que du côté du Lightning. Effectivement, à date, ça a bien fonctionné pour nous. Ça nous a permis de conserver un noyau intéressant de bons joueurs. Et les joueurs, ultimement, finissent par signer un gros contrat lorsque vient le temps de signer leur 3e contrat. Ça s'est avéré vrai pour Kucherov, pour Vasilevskiy, Johnson, Palat, un paquet de nos joueurs. Alors, c'est ça. Alors, c'est le cheminement là, qu'on s'attend à suivre avec Braden. C'est le cheminement qu'il s'attend à suivre lui aussi. Pour l'instant, lui, il est heureux d'être sous contrat avec le Lightning pour les 3 prochaines saisons. Et nous, on est très heureux de savoir qu'on va pouvoir compter sur ses services.
Je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre à la prochaine. Je pense que oui, mais pour notre bénéfice, pour notre compréhension, si tu avais voulu signer le même contrat avec Braden Point à Montréal ou Toronto ou Vancouver, aurais-tu dû y offrir davantage? Est-ce que la fiscalité de la Floride est un atout pour vous autres?
Je pense que de façon générale, c'est sûr que c'est un atout. Je peux pas répondre à savoir si j'étais dans une autre organisation, si on serait capable de le faire ou de pas le faire. Ce que je sais, c'est qu'à Tampa, on a un historique. Ça, c'est ce qui nous aide le plus. C'est les contrats qu'on a fait nous, à l'interne. Alors, on peut toujours pointer du doigt ces contrats-là lorsqu'on est en conversation avec nos joueurs ou avec leurs agents pour dire, regardez, voici comment ça fonctionne ici, voici pourquoi. À date, ça a permis aux joueurs qui signent avec le Lightning d'être sur des équipes compétitives à chaque année. Si on était dans un autre moment dans notre cycle de succès, si on était une équipe qui était en reconstruction, par exemple, probablement qu'on aurait une philosophie différente, puis qu'on voudrait signer des contrats à plus long terme en se disant, ben en ce moment, on a de l'espace sur le plafond salarial, c'est pas un problème. On va espérer avoir une aubaine. On va espérer que ce contrat-là de 6, 7, 8 ans va être une aubaine dans les dernières années du contrat lorsqu'on espère être plus compétitif. Mais nous, grosso modo, là, depuis 2014, on forme une des bonnes équipes au niveau de la Ligue nationale. À chaque année, nos ambitions sont très élevées. Et puis, on a un certain nombre de bons joueurs qu'on essaie de garder à chaque année. Jusqu'à présent, on a été chanceux. Les joueurs ont coopéré avec nous. On a réussi à garder pas mal tous nos joueurs. Cet été, j'ai dû échanger JT Miller pour des raisons de pouvoir respecter le plafond salarial. Et c'est fort probable que l'été prochain, je vais devoir prendre d'autres décisions de ce style-là parce que le plafond ne monte pas aussi rapidement qu'il le faisait par le passé. Et puis là, j'ai déjà le contrat d'André Vasilevski qui va entrer en vigueur l'année prochaine. Alors ça, c'est 6 millions supplémentaires sous le plafond salarial pour pouvoir conserver André. Alors, jusqu'à présent, on a été chanceux, on a réussi à garder tous nos joueurs, mais éventuellement, et ça fait plusieurs années qu'on le dit, mais éventuellement, on sera plus capable. Alors, pour l'instant, on est heureux d'avoir les contrats et les joueurs que nous avons en ce moment, et puis on espère pouvoir en profiter pour avoir une bonne saison.
Mais juste pour résumer, donc, je retiens que tu dis oui, c'est sûr que c'est un avantage de la fiscalité de la Floride, donc c'est pas farfelu là, de penser que le même contrat pour un même joueur au Canada ou en Floride, ça coûte plus cher au Canada. Je suis pas dans le champ de penser ça, là, Julien.
Je pense qu'il motive les joueurs dans leurs décisions. Ça dépend d'un joueur à l'autre. Chaque cas est un cas d'espèce. Je dirais, c'est probablement plus vrai pour lorsque vient le temps là, de négocier des contrats pour des joueurs qui sont des joueurs autonomes sans compensation, qui eux ont des options. Eux, ils peuvent signer avec le club de leur choix. Des joueurs qui sont des joueurs dits autonomes avec restriction, ben ils sont pas mal liés à leur équipe. Alors, ils n'ont pas vraiment l'embarras du choix. C'est pas comme s'ils pouvaient se négocier le taux de fiscalité qui va s'appliquer à leur contrat.
Non, je comprends.
Et puis, généralement, ce qui dicte la valeur de ces joueurs-là, c'est ce qu'ils pourraient obtenir en arbitrage dans le cadre d'un arbitrage salarial. Mm-hmm. Et puis, en arbitrage salarial, la fiscalité ne rentre pas en ligne de compte du tout. Là. Alors, je pense que c'est certainement un avantage lorsque vient le temps de signer des joueurs autonomes sans compensation. En ce qui a trait aux joueurs autonomes avec compensation, je pense que ça a moins d'impact.
Fort intéressant. Quelques petites vites avant de te laisser filer, Julien. Est-ce que, quand tu penses à ça, juste ton évaluation, Mikhail Sergachev, qu'as-tu pensé de sa deuxième année et qu'attends-tu de sa troisième année professionnelle?
Je crois qu'il y a eu une très bonne deuxième année avec nous. Je pense que son temps de jeu a monté en moyenne là, de 2 minutes par match. Il a été utilisé un petit peu plus en désavantage numérique. D'ailleurs, au camp d'entraînement, on l'a utilisé davantage dans ces situations-là que par le passé. C'est sûr qu'on s'attend à ce qu'il joue du côté droit. C'est un petit peu plus difficile pour lui puisqu'il est gaucher. Alors pour l'instant, il a surtout évolué avec Victor Hedman sur une de nos deux premières paires là, durant le camp d'entraînement. On a Kevin Shattenkirk qui lui est droitier, qui est une nouvelle acquisition, un nouveau joueur au sein de notre organisation qui lui aussi peut jouer ce rôle-là pour nous. Alors, ça reste à voir, mais je suis très optimiste qu'il va continuer que sa progression va continuer. Il a fait une très belle progression entre sa première saison et sa deuxième saison.
Crois-tu à ça, la gang de la deuxième année, toi, Julien? Crois-tu à ça? Ou peux-tu dire qu'en général, dans le sport professionnel, on remarque qu'il y a une petite baisse à deuxième ou pas nécessairement?
Je dirais pas nécessairement, mais c'est fréquent que ça arrive. Je crois que c'est relié aux attentes des joueurs. Dans notre industrie, là, ce qui est un des grands défis, là, et je l'ai beaucoup vécu lorsque j'étais responsable de notre club école au niveau de la Ligue américaine, c'est de gérer les attentes. Alors, le joueur qui connaît une bonne première saison au niveau de la Ligue nationale, probablement qu'il s'attendait à pas grand-chose, a performé au-delà de ses espérances. Et puis là, il espère avoir une grosse progression, va avoir une encore plus grosse saison l'année suivante. Et puis ses attentes deviennent peut-être un petit peu moins réalistes à court terme. Et puis ensuite, c'est difficile quand tu as l'impression que tu réponds pas à tes attentes. T'as l'impression que tu échoues. Et puis là, ta confiance est minée et ta performance en souffre. Alors, c'est très important de gérer les attentes avec les jeunes joueurs. Ça a été un de nos défis l'année dernière, justement, avec Mikhail Sergachev. J'ai eu quelques conversations avec lui en cours de route pour lui dire « Je sais que tu veux être un joueur qui joue 24 minutes par match puis qui est dominant, mais tu as juste 20 ans. Ça va venir. » les Victor Hedman, là, à 20 ans, il n'était pas le Victor Hedman qu'il est aujourd'hui à 27-28 ans non plus. Là. Donne-toi du temps. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est exceptionnel. Les joueurs de ton âge, là, ils sont dans le junior ou ils sont dans la Ligue américaine. Toi, tu joues des grosses minutes sur un bon club dans la Ligue nationale. Ça, en soi, c'est déjà très impressionnant. Alors, c'est beaucoup. Je pense qu'un des gros défis, c'est de gérer les attentes auprès de ces jeunes joueurs-là. Parce que souvent, les attentes qu'ils se mettent pour leur propre performance ont tendance à ne pas être réalistes.
Et que c'est plaisant de jaser hockey avec toi, Julien Brisebois, DG, VP du Lightning de Tampa Bay. Je vais me garder mes autres questions pour un prochain rendez-vous compte tenu de la générosité de tes réponses cette fois-ci. Tu as l'air dans une super forme, Julien. Bonne chance à ton équipe. Bonne saison 2019-2020. Puis merci d'avoir été là.
Hey, bonne saison à toi, Mario.
Sur ce, on s'arrête le temps de quelques messages. Ensuite de quoi, Martin McGuire nous résume la journée du Canadien aujourd'hui à Brossard.